11. Il demande un commandement extraordinaire et se venge du refus des grands. S'étant concilié la faveur du peuple, il essaya, par le crédit de quelques tribuns, de se faire donner le gouvernement de l'Égypte, en vertu d'un plébiscite. Cette demande inopinée d'un gouvernement extraordinaire était fondée sur ce que les habitants d'Alexandrie avaient chassé leur roi, ami et allié du peuple romain, conduite généralement blâmée à Rome. L'opposition des optimates fit échouer les prétentions de César, qui, pour affaiblir à son tour leur autorité par tous les moyens possibles, releva les trophées de Gaius Marius sur Jugurtha, sur les cimbres et sur les teutons, monuments autrefois renversés par Sylla. Et quand on informa contre les Sicaires, il fit ranger parmi ses meurtriers, malgré les exceptions de la loi Cornélie, ceux qui, pendant la proscription, avaient reçu de l'argent du trésor public pour prix des têtes des citoyens romains. 12. Il fait accuser Rabirius et le condamne. Il suscita aussi un accusateur pour haute trahison contre Gaius Rabirius, qui, quelques années auparavant, avait plus que personne aidé le Sénat à contribuer les séditieuses entreprises du tribun Lucius Saturnius. Désigné par le sort pour être un des juges de l'accusé, il le condamna avec tant de passion que devant le peuple, rien ne fut aussi utile à l'appelant que la partialité de son juge. 13. Il est nommé souverain pontife, ses profusions et ses dettes. Déçu de l'espérance d'un commandement, César brigua le souverain pontificat et répandit l'argent avec une telle profusion qu'effrayé lui-même de l'énormité de ses dettes, il dit à sa mère en l'embrassant, avant de se rendre au comice, qu'il ne rentrerait pas chez lui sinon comme pontife. Il l'emporta sur deux compétiteurs bien redoutables, bien supérieurs à lui par l'âge et par la dignité, et eut même sur eux cet avantage de réunir plus de suffrages dans leur propre tribu qu'ils n'en eurent ensemble dans toutes les autres. 14. Sa prêture, son opinion dans le jugement des complices de Catilina. César était prêteur quand on découvrit la conjuration de Catilina. La mort des coupables avait été résolue dans le Sénat, d'une voix unanime. Lui seul opina pour qu'ils fussent détenus séparément dans des villes municipales et que leurs biens fussent vendus. Bien plus, ceux qui avaient proposé une peine plus sévère, il les effraya tellement par la menace réitérée des haines populaires qui un jour se déchaîneraient contre eux que Decimus Silanus, consul désigné, ne craignit pas d'adoucir par une interprétation son avis dont il ne pouvait changer son honte, et qu'on avait compris, dit-il alors, dans un sens plus rigoureux qu'il l'avait voulu. César allait l'emporter. Déjà même un grand nombre de sénateurs étaient passés de son côté, entre autres Cicéron, le frère du consul. C'en était fait, si le discours de Caton n'eût raffermi le Sénat intimidé. César, loin de renoncer à son opposition, y mit une telle persistance qu'une troupe de chevaliers romains, qui gardait armée la salle du Sénat, menaça de lui donner la mort. Des glaives nus furent même dirigés contre lui, en sorte que ses voisins se reculèrent. Quelques-uns seulement, le tenant dans les bras et le couvrant de leur toge, réussirent dans son peine à le sauver. Alors, saisi d'effroi, il céda. Et de tout le reste de l'année, il ne parut plus au Sénat. 15. Il veut enlever à Catulus le droit de faire la dédicace du Capitole. Le premier jour de sa prêture, il cita devant le peuple Catulus aux fins d'enquête sur la reconstruction du Capitole, et il proposa d'en confier le soin à un autre. Mais voyant que les optimates, au lieu d'aller rendre leur devoir au nouveau consul, accouraient en foule à l'assemblée pour lui opposer une résistance opiniâtre, et jugeant cette loi inégale, il abandonna cette poursuite. 16. Il est suspendu de ses fonctions et rétabli. Il ne montra que plus d'obstination à soutenir et à défendre, malgré l'opposition de ses collègues, le tribun du peuple Cecilius Metellus, auteur de lois particulièrement subversives. Un décret du Sénat finit par les suspendre tous deux de leurs fonctions publiques. César eut néanmoins l'audace de rester en possession de sa charge et de rendre encore la justice. Quand il apprit qu'on se préparait à employer contre lui la violence et les armes, il congédia ses licteurs, se dépouilla de la prétexte et se retira secrètement chez lui, résolu, eut égard aux circonstances, de se tenir tranquille. 2 jours après, la foule s'assembla d'elle-même et spontanément devant sa maison. Elle lui offrit son appui pour le rétablir dans sa dignité. Le tumulte était au comble. César l'apaisa. Étonné de cette modération, les sénateurs, que la nouvelle de l'attroupement avait réunis à la hâte, envoyèrent pour lui rendre grâce les plus illustres d'entre eux. Et il fut rappelé dans le Sénat, où lui furent prodigués les plus pompeux éloges. Enfin, on le réintégra dans sa charge en rapportant le premier décret. 17. Il est nommé comme complice de Catilina. D'autres embarras ne tardèrent pas à l'assaillir. Il fut nommé parmi les complices de Catilina, devant le questeur Novius Niger, par le délateur Lucius Vestius, et dans le Sénat, par Quintus Curius, à qui l'on avait décerné des récompenses publiques pour avoir révélé le premier les projets des conjurés. Curius prétendait tenir de Catilina ce qu'il avançait. Vestius s'engageait à produire un billet écrit par César à Catilina. César ne crut pas devoir souffrir ces attaques. Il implora le témoignage de Cicéron pour prouver qu'il lui avait, de son plein gré, transmis certains détails sur la conjuration, et il fit priver Curius des récompenses qu'on lui avait promises. Quant à Vestius, à qui l'on infligea une saisie, dont il pompilla les meubles, dont on maltraita la personne, et qui enfin fut près d'être mis en pièces en pleine assemblée, au pied de la tribune, César le fit jeter en prison. Il y fit conduire aussi le questeur Novius, pour avoir souffert qu'on accusât à son tribunal un magistrat supérieur à lui en autorité. 18. Il part pour l'Espagne. À l'issue de sa prêture, le sort lui départit l'Espagne ultérieure, mais retenu par ses créanciers, il ne s'en délivra qu'après avoir donné des cautions. Et sans attendre que, selon l'usage et les lois, le Sénat eût réglé tout ce qui concernait les provinces, il partit, soit pour échapper à une action judiciaire qu'on voulait lui intenter à l'expiration de sa charge, soit pour porter plus promptement secours aux alliés qui imploraient la protection de Rome. Quand il eut pacifié sa province, il revint, avec la même précipitation et sans attendre son successeur, pour demander à la fois le triomphe et le consulat. Mais le jour des comices étant déjà indiqué, l'on ne pouvait tenir compte de sa candidature que s'il entrait dans la ville en simple particulier. Et lorsqu'il intrigua pour être affranchi de la loi, il rencontra une forte opposition. Il fut donc forcé de renoncer au triomphe pour ne pas être exclu du consulat. 19. Il est nommé consul, premier triumvirat. De ses 2 compétiteurs au consulat, Lucius Lucullus et Marcus Bibulus, il s'attacha le premier, qui avait moins de crédit mais une grande fortune, à condition que celui-ci associerait le nom de César au sien dont s'élargissait son centurie. Les optimates, instruits de ce marché dont ils craignaient les suites et persuadés que César, avec la plus haute magistrature de l'État et un collègue tout à lui, ne mettrait pas de borne à son audace, voulurent que Bibulus fît aux centuries les mêmes promesses, et la plupart d'entre eux se cotisèrent à cet effet. Caton lui-même avoua que cette fois, la corruption profiterait à la République. César fut donc nommé consul avec Bibulus. Les optimates n'eurent plus d'autres ressources que d'assigner au futur consul des départements, sans importance, à savoir ceux des bois et du pâturage. Excité surtout par cette injure, César ne négligea aucun moyen de s'attacher Pompée. Alors irrité lui-même contre les sénateurs de ce que, malgré ses victoires sur le roi Mithridate, ils hésitaient à ratifier ses actes. Il le réconcilia aussi avec Marcus Crassus, qui était resté son ennemi depuis les violentes querelles de leur consulat, et il conclut avec eux une alliance en vertu de laquelle rien ne devrait se faire dans l'état de ce qui déplairait à l'un des 3. 20. Actes principaux et violence de son consulat. En prenant possession de sa dignité, César établit, le premier, que l'on tiendrait un journal de tous les actes du Sénat et du peuple, et que ce journal serait rendu public. Il fit revivre aussi l'ancien usage de se faire précéder par un huissier et suivre par des licteurs pendant le mois où l'autre consul aurait les faisceaux. Il promulgua une loi agraire, et comme son collègue s'y opposait, il le chassa du forum par les armes. Le lendemain, celui-ci porta ses plaintes au Sénat. Mais il ne trouva personne qui osât faire un rapport sur cette violence, ou proposer de ces résolutions vigoureuses qu'on avait si souvent prises dans de moindres désordres. Bibulus, au désespoir, se retira chez lui, où il se tint caché tout le temps de son consulat, ne manifestant plus son opposition que par la voix des édits. De ce moment, César régla tout dans l'État à sa guise, si bien que des railleurs, avant de signer leurs lettres, les dataient par plaisanterie non du consulat de César et de Bibulus, mais du consulat de Jules et de César, faisant ainsi deux consuls d'un seul, dont ils séparaient le nom et le surnom. On fit aussi courir les vers suivants. Ce que César a fait, qui d'entre nous l'ignore? Ce qu'a fait Bibulus, moi, je le cherche encore. La plaine de Stella, consacrée par nos ancêtres, et le territoire compagnien qui était resté soumis à l'impôt pour les besoins de la République, furent distribués par son ordre et sans que le sort fût consulté à 20 000 citoyens, pères de 3 enfants ou d'un plus grand nombre. Les fermiers de l'État demandaient une réduction. César leur remit le tiers de leur fermage et les engagea en public à ne point enchérir inconsidérément à la prochaine adjudication des impôts. Il en était ainsi du reste. Tout ce que l'on convoitait, César en faisait largesse. Personne n'osait s'y opposer, et quiconque l'osait se voyait en butte à ses vengeances. Caton l'ayant un jour tenté, il le fit traîner hors du Sénat par un licteur et conduire en prison. Lucius Lucullus, qui lui avait résisté avec trop de hardiesse, fut si épouvanté de ses menaces qu'il lui demanda grâce à genoux. Cicéron, dans un plaidoyer, avait déploré le malheur des temps. Le jour même, à la 9e heure, César fit passer dans les rangs plébéiens le patricien Publius Clodius, ennemi de Cicéron, et qui depuis longtemps tâchait en vain d'y entrer. Voulant finir avec ses adversaires, il suborna Vessius à prix d'argent pour qu'il déclarât que quelques-uns d'entre eux l'avaient engagé à tuer Pompée, et qu'amené au forum, il nomma les prétendus auteurs de ce complot. Mais Vessius, accusant sans preuve tantôt l'un, tantôt l'autre, la fraude fut bientôt soupçonnée, et César, désespérant du succès d'une entreprise aussi imprudente, fit, dit-on, empoisonner le dénonciateur.